Salut, c'est la revanche des hérissons.
La revanche des hérissons.
Une émission en non-mixité, trans, PD, green, meuf et féministe.
Ça va piquer.
Ça va gratter.
On parle de l'actu.
On fait des reportages.
On dit nos coups de cœur.
On s'amuse.
On met de la musique. On parle de lutte.
On prend la parole
et on la donne.
Et aussi, on fait un agenda.
Vous connaissez l'histoire de Paf le hérisson ? C'est un hérisson qui traverse la route et paf, le pneu.
Bonjour, vous êtes bien dans la revanche des hérissons sur Jet FM 91.2. Aujourd'hui, encore une fois, on vous fait la rediffusion d'une émission de notre plateforme préférée Radio Rageuse, C'est la classe. C'est la classe, c'est une émission qui aborde la question de la classe avec des points de vue féministes et antiracistes. IL ont envie de parler et d'étudier la bourgeoisie. Pour inverser la tendance qui veut que ce soit les minorités, les minoritaires, les personnes appartenant à des classes sociales dites populaires qui se fassent étudier. Dans cet épisode, on y parle du corps bourgeois, de la façon dont il est façonné, construit, de ses marqueurs, de la façon dont il se fait la norme, pour être reconnu d'une part et dominant de l'autre. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute.
C'est la classe.
Je suis né dans la bourgeoisie, j'ai vécu dedans.
C'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête.
Une émission pour disséquer la bourgeoisie.
Je n'ai absolument pas honte du tout de ce que je suis, au contraire.
On ne vous le dit pas.
J'ai pas à le dire, il faut que je le sois, c'est tout.
Il n'y a pas spécialement des manières particulières. C'est simplement la bonne éducation.
Bah, écoute, mon père n'a jamais pris un repas dans une cuisine. Jamais.
Une émission pour disséquer la bourgeoisie.
C'est la classe.
La classe.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'émission C'est la classe. Aujourd'hui, on va aborder la thématique des corps dans la bourgeoisie.
Alors, le corps, c'est un des marqueurs de la classe sociale et non des moindres. Il est particulièrement façonné et travaillé dans la classe bourgeoise. Et dans la tenue et la droiture des corps bourgeois, nous devrions y voir la droiture de l'esprit ou encore la civilité. C'est du moins ce que les bourgeois et les bourgeoises veulent y montrer. Le corps devient la représentation de leur vision du monde. Les règles de savoir-vivre modèlent le corps. Elles agissent sur les gestes, la démarche, la posture, la voix, etc. Le savoir-vivre bourgeois est censé être universel. Et les bourgeois et les bourgeoises sont convaincus que ces règles sont fondamentales pour faire d'eux des êtres cultivés, élégants et polis. Le savoir-vivre se veut aussi être une maîtrise du corps, des émotions et des pulsions.
Alors, pour cette émission, on a décidé d'interviewer trois camarades amis, issus de classes aisées, qui ont bien voulu répondre à ces questions, et on les remercie. Donc voici les questions. Peux-tu te situer socialement? Comment te décrirais-tu corporellement? Quel est le rapport à ton corps actuellement? Quelles formes de corps, corpulence sont valorisées dans ta famille? Quelles activités physiques pratiquais-tu étant petit-petite ou étaient pratiquées ou valorisées dans ta famille ? Y avait-il des règles de posture corporelle explicites ou implicites, position, tenue, etc. Si oui, lesquelles ? As-tu eu une impression d'un contrôle de ton corps implicite ou explicite par ton environnement familial et de quelle manière ? Quelle marque de vêtements, chaussures portais-tu ? Quelle tenue vestimentaire était valorisée ? Mais alors, si on demande aux amis toutes ces questions, à nous d'y répondre, déjà pour nous-mêmes. Pour ma part, je suis une meuf Gwyn, 6, franco-marocaine, étant née en France dans une famille avec un père français et une mère marocaine. L'un était chaudronnier dans une usine de construction de camions de pompiers, et l'autre agent de service hospitalier puis aide-soignante. Mes parents ont été propriétaires 3 ans d'un appartement, puis toute leur vie en location. Lors de la mort d'un, je n'ai pas touché d'héritage, et ce sera la même lors de la mort du deuxième. J'ai pu accéder à des études supérieures à la fac tout en travaillant et en ayant les bourses. J'ai une situation à l'heure actuelle d'une employée qualifiée dans une association et touche un peu plus que le SMIC malgré l'obtention de master.
Alors moi, je suis un trans masculin blanc issu de classe moyenne, comme j'aime à le dire. Mes parents, enfants de petits agriculteurs propriétaires, ont pris l'ascenseur social pour devenir instituteur pour mon père et infirmière pour ma mère, puis institutrice plus tard. Ils sont restés à la campagne et j'ai grandi avec le confort matériel de la classe moyenne, mais avec le stress de la petite paysannerie sur l'argent et sur le manque. Mon accès à la culture pourrait être considéré comme moyen si j'avais grandi en ville, mais dans la campagne isolée où j'ai grandi, ça m'a donné un capital énorme par rapport à mes camarades d'école, même par rapport à ceux qui provenaient d'une classe économique plus aisée. Mes parents sont propriétaires de leur maison, et peut-être qu'ils devront la vendre pour payer leur place en maison de retraite ou en EHPAD, mais ce qui est sûr par contre, c'est qu'ils ne seront pas à notre charge, nous, leurs enfants, ce qui est un privilège certain. Alors le corps bourgeois, comme on l'a dit, c'est un corps contrôlé de près et façonné avec attention. Il doit représenter la réussite sociale. Pour cela, dès le plus jeune âge, il est soumis à des règles contraignantes, règles qui sont explicites ou non. On retrouve régulièrement dans les injonctions faites au corps bourgeois « tenez-vous droit »,« portez bien la tête »,« n'ayez pas le menton baissé », etc. Les bonnes manières, comme on l'a vu dans la première émission, sont autant de règles sur les attitudes et également sur les postures du corps qui contraindront le corps pour en faire un parfait représentant de sa classe sociale. Les manières de table sont une pratique quotidienne du dressage des corps et c'est aussi un moment privilégié de socialisation au cours duquel se transmet l'ensemble des signes distinctifs de la bourgeoisie. On ne se resserre pas si la maîtresse de maison ne nous y invite pas. Le contrôle de l'appétit étant une preuve de réussite, on ne met pas les coudes sur la table. On ne mange bien sûr pas la bouche ouverte. On lève le bras pour porter un verre à sa bouche. On doit rester en place droite sur sa chaise, ni coller le dossier, ni coller la table. Un chat doit pouvoir s'asseoir sur les genoux et une souris passer entre le dossier de la chaise et le dos, c'est ce qu'une amie nous a dit que sa grand-mère lui disait. Les coups de corps, les mains posées sur la table, de chaque côté de l'assiette, etc.
Ça n'allait pas ?
Oh non. J'ai un petit problème.
Bien. Une dernière fois, la serviette.
La serviette, qu'on pose délicatement sur ses genoux.
Bien. Pas les coudes sur la table. Tenez-vous droite. Fourchette à poisson, fourchette à salade, fourchette à viande.
Celle pour la salade, je l'ai bien en tête. Le reste est découvert, je mélange un peu les pédales.
Bon, alors si vous vous embrouillez, comptez les dents. 4 dents, fourchette à viande. Souvent, les fourchettes à salade n'ont que 3 dents.
Alors, devinez dans quel film c'est ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pretty Woman. Voilà un exemple de règle de manière de table. Le corps ainsi bien éduqué est une des formes de politesse de la bourgeoisie pour montrer son savoir-vivre en société et l'écart qui sépare le corps bourgeois du reste, c'est-à-dire du peuple mal éduqué. La bourgeoisie pratique des sports qui dressent le corps, équitation, danse, escrime, des sports où l'élégance est bien plus importante que la force. Et c'est ainsi que nous pouvons lire un corps bourgeois dans l'espace social sans trop s'y tromper. Il est là, se mouvant de manière aisée et élégante dans l'espace, le plus souvent grand, mince et droit, tellement droit. Le cou dégagé par un menton pointant légèrement vers le haut, ce port de tête caractéristique du bourgeois ou de la bourgeoise qui lui donne cette impression de surplomber le monde. À un moment, j'ai eu envie d'étudier à partir de quel degré d'angle entre le cou et le menton on pouvait définir un port de tête bourgeois des autres ports de tête. Bon, je continue de rigoler sur une telle mesure, mais plus sérieusement, nous avons malheureusement appris à reconnaître les corps bourgeois parce que nous sentons également leur autorité. La manière de se tenir et de nous regarder nous met directement dans une attitude de gêne et d'infériorité sans que rien ne soit dit. C'est toute la force du capital symbolique de la bourgeoisie, c'est-à-dire savoir être reconnu comme supérieur sans qu'il y ait besoin d'aucun mot. Et pour conclure sur cette partie sur l'exis et la posture, dans « Les bourgeois vivent comment ?» de Frédéric Giraud, enfin plutôt Frédéric Giraud résume.
Le corps bourgeois est un corps qui classe et un corps classant qui s'entretient comme un capital physique. Se façonner une apparence cultivée suppose un travail sur la corpulence et donc sur les pratiques sportives comme alimentaires. Le corps représente ainsi une forme de richesse symbolique qu'il faut entretenir en faisant du sport, mais pas n'importe lequel évidemment. Du rugby, du tennis, du golf, plutôt que des sports populaires, comme le football, et en consultant de façon préventive et régulière des médecins. Prendre soin de soi, c'est entretenir sa position de classe. Le corps bourgeois n'est pas un corps qui s'use par le travail, en tout cas pas d'une manière physique, par le port de charges lourdes, le travail en plein air ou en horaires décalés. Les bourgeois sont en mesure d'entretenir un rapport esthétique à leur propre corps qui fonctionne moins comme un outil que comme un instrument au service de la représentation de soi. Et maintenant, écoutons un montage.
Alors, je viens d'une famille de 4 garçons, genre de la moyenne bourgeoisie de la campagne. Individuellement, je me situerais comme légèrement déclassé, mais légèrement.
Mes parents étaient tous les deux, travaillaient tous les deux avec le niveau 4, l'un dans le privé, l'autre dans le public. Donc, ça fait pas tout à fait le même statut, mais les mêmes, enfin, des niveaux de revenus conséquents, en tout cas assez conséquents pour qu'on parle jamais d'argent, pour que ce soit pas un enjeu. Je me suis jamais senti limité par ça quand j'étais enfant. Ou un peu après. Et puis aujourd'hui, ben, ça fait que je bénéficie encore de tout ça. J'ai fait des études selon les périodes. J'ai des fois des salaires et des fois pas. Mais quand j'ai un salaire, en tout cas pour l'instant, j'ai toujours pu faire des activités qui me plaisent et qui sont quand même plutôt bien payées et qui m'ont permis de ne pas travailler tout le temps. Et puis aussi, comme il y a des gens dans ma famille qui sont décédés, j'ai déjà eu aussi des bouts d'héritage. Bah, qui font aussi que c'est ça, que quand je travaille pas, je garde le bénéfice du fait d'être issu de cette famille riche.
Moi, je viens d'une famille bourgeoise du nord-est de la France, de la campagne. Moi, je viens d'une famille, c'est mes parents qui ont pris l'ascenseur social, c'est-à-dire que c'est des enfants, les deux, c'est des enfants de paysans pauvres, mais propriétaires, et fous. De chaque côté, tout le monde a fait de l'HP, et ils se sont rencontrés, et eux, ils ont fait médecine. Mon frère et ma sœur ont grandi avec des parents qui n'avaient pas de thunes, parce qu'ils étaient en études de médecine, et moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient multipropriétaires. Et moi, je suis au RSA, et je vis en squat, ce qui fait que j'ai globalement à peu près 400 euros dont je dispose chaque mois et que j'en fais ce que je veux, quoi, finalement. Ce qui fait de moi aussi une petite bourgeoise.
Ce que je sais de moi et ce qu'on me renvoie, J'ai la peau blanche, j'apparais, je me considère comme masculin, je suis assez grand.
Alors, moi je dirais que corporellement je réponds aux normes physiques de beauté. Je suis grande, fine, je suis très féminine, je suis femme, ça ne peut pas forcément avoir avec le sujet, mais quand même j'ai qu'à le dire. Je suis très maquillée et je pense que je tire un tout petit peu des fois sur le vulgaire.
Alors, je suis un garçon pas très grand et je suis très mince, voire maigre. Et châtain, les yeux clairs.
Je vais avoir 35 ans, un truc comme ça. Et je pense que je ne me suis jamais eu à me poser la question de mon rapport à mon corps avant parce qu'il était toujours comme parfait. Il n'y avait rien à se poser alors que maintenant, si je fais pas de sport, je grossis. En tout cas, j'ai un regard qui a changé. Et je pense, je fais plus exactement ce que je veux de mon corps sans avoir à y penser. Du coup, je le pense. Je dirais que mon rapport actuellement, il est en travail à essayer d'accepter comment il est et d'être tranquille avec.
Comment je me sens dans mon corps. Ça dépend un peu de comment je me sens dans le reste de mon existence. Les moments où on m'a renvoyé des choses que je n'aimais pas de moi, c'était pas tellement lié à mon corps, quoi. Donc c'était pas un gros enjeu, c'était pas une difficulté, ça reste un peu comme ça. Mon corps et moi, on s'entend bien. Et en même temps, je vois aussi que c'est bien, c'est pas nouveau et ça va, j'aimerais bien que ça continue. Je vois aussi que mon corps et moi, on vieillit un peu. Je vois un peu des signes comme ça. Et là, j'en suis à un moment où je trouve ça intéressant. Parce que ça change, mais que c'est pas un enjeu.
Moi, je dirais, chez moi, là où j'ai grandi, j'ai un frère, une sœur, et un père et une mère. Et on n'a pas vraiment grandi ensemble, mais si je prends ça comme ma base familiale, parce que les autres gens, je les vois pas, on est assez grands. Assez mince avec quand même des ossatures un peu larges et répondant au canon de beauté standard là. Sauf mon frère qui est psychiatrisé depuis qu'il a 20 ans et qui ne ressemble vraiment pas à ça, je veux dire. Il ressemble à quelqu'un de psychiatrisé depuis 20 ans avec des neuroleptiques, quoi. Voilà, et j'ai l'impression que on ressemble à ça et que c'est ça qui est valorisé. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais grosse si j'avais pas juste la peau sur les os. C'est-à-dire, j'étais très maigre quand j'étais petite et dès que j'ai commencé à, je pense, juste prendre des formes et arrêter d'être squelettique, ma mère, elle venait choper mes bras en disant « Oh mon Dieu, regarde, t'es en train de grossir alors que j'avais 15 ans. » Mais comme maintenant, quand je fais du sport et qu'elle regarde mes muscles, elle dit « Oh mon Dieu, t'as fait trop de muscles trop vite, il va fondre et tu vas devenir grosse. » Alors, t'es là, bon.
Le fait est que globalement, tout le monde est mince. Pas forcément très grand, mais quand même il y a des grands. Minces, surtout les femmes. Les hommes grossissent avec l'âge, mais ça passe. Mais quand même, faut pas que ce soit trop. Je sais pas dans quelle mesure être mince est valorisé, mais il y a un truc de santé, par exemple. Tu vois, quand t'es trop gros, c'est que t'es pas en bonne santé ou que c'est un problème de santé. Et quoi qu'il en soit, j'imagine que ça aurait été différent si j'avais été une fille. Je pense qu'il y aurait eu plus de pression. Mais j'ai un cousin qui a fortement grossi et qui a perdu du poids après, et plutôt on l'a félicité après coup en disant c'est mieux pour ta santé. Du coup, ouais, c'est valorisé, mais c'est pas explicite. Body language. Body language. Body language.
Alors, dans ma famille, il y avait plein de règles de posture corporelle, et notamment sur, par exemple, se tenir à table. Il y avait plein de tentatives de règles, c'est-à-dire que ma mère, elle avait ce truc de « Ah, pour faire bien, il faut faire comme ça », c'était très présent, mais en fait, comme elle venait pas de là, ça ne marchait jamais. Ce qui fait qu'elle voulait toujours qu'on se tienne tous bien à table, mais que, par exemple, ma sœur, elle a 16 ans de plus que moi quand même, on n'a pas été élevés du tout de la même manière et on a un gros décalage, mais ma sœur et moi, on n'a jamais réussi à s'asseoir normalement sur une chaise. On avait toujours nos jambes, vous savez, les pieds sur la chaise aussi, comme une grenouille, quoi. Et on a toujours mangé comme ça et on faisait des concours, alors que mon frère et ma sœur ont 16 ans et 17 ans de plus que moi, deux. qui réussissait à pas trop dégueulasser ça, l'autour de son assiette alors qu'on en mettait partout. Mais ma mère, elle avait fort ce truc de comment se tenir, comment il faut faire quand il y a des invités, et ça la stressait à fond. Je pense ma mère, elle avait pas trop de pas mettre le coude sur la table, parce que je pense ça, elle-même, ça lui renvoie un truc de bourge. Comme elle vient pas de là, c'est un peu compliqué de dire oh non non, on met pas les coudes sur la table. Mais il y avait vraiment ce truc d'avoir envie de passer pour, du coup, de dire bon bah faire ça, pas en foutre partout, essayer de mâcher un peu la bouche fermée et de pas parler la bouche pleine si on y arrivait. Ça, c'était dans vraiment le quotidien. Mais après, j'ai l'impression en fait, mes parents, ils avaient vraiment des règles pour l'extérieur, c'est-à-dire que les moi, je me rappelle qu'on se lavait quasi tous tout le temps. Dans... Enfin, il n'y a aucune pudeur dans ma famille. Tout le monde se trimballe partout. Je veux dire, moi, j'allais me laver pendant que ma mère était en train de chier. C'était normal, je ne sais pas quoi. Mais s'il y avait des autres invités à la maison, c'était comme si ça ne se faisait pas. Ma mère, elle allait chier, elle fermait la porte. Et quand je voulais rentrer, elle disait « Bah, enfin, Julie, je suis aux toilettes !» En fait, ça n'a pas de sens. Moi, je suis « Bon, bah, très bizarre, mais ce n'est pas très grave. »
Bah alors, je pense que c'est beaucoup lié à comment on était à table. Mais c'était quand même plutôt la famille de ma mère, pour le coup. C'est pas parce que c'est la bouffe avec la famille de mon père, mais c'est plus le côté des bonnes manières de la famille de ma mère. Et surtout quand on était petit. Après, je pense que maintenant, peut-être qu'ils ont laissé tomber. En tout cas, les règles, c'était, par exemple, il faut se tenir droit, il faut pas faire de bruit quand on mange, il faut pas manger avec les doigts, il faut utiliser les bouts. Avant, c'était pas non plus des repas, on avait 15 couverts différents et avec plein de codes à savoir, mais par contre, c'était présenté pas comme des codes, mais comme des manières, des trucs qui seraient partagés par tout le monde, quoi. Ou d'un côté, je pense qu'effectivement, c'est parmi les gens qui connaissent ces codes, ils sont présupposés comme partagés par tout le monde, du coup, c'est quand même bien de les connaître. Mais c'est pas vrai que c'est partagé par tout le monde. Il y avait un côté où il fallait se tenir droit parce que sinon c'était pas élégant, quoi. Je sais pas comment elle le disait, mais c'était ça la bonne façon de faire. Mais c'était aussi parce qu'elle disait sinon quand tu seras vieux, tu seras bossu. Bon, bah je pense une partie c'est vrai. Quand on vieillit, les gens qui sont mais plutôt à 70-80 ans, bah c'est vrai qu'on rétrécit et on se tasse, quoi. Après, je sais pas si ça vient vraiment de comment on se tient à table. Mais ça fait des restes quand même, ça fait que moi il y a des moments effectivement, tu vois, sur quoi je pense, c'est que des fois quand je suis assis trop longtemps j'ai mal au dos. Il y a plein de gens qui partagent ça, que c'est des positions pas forcément hyper adaptées de passer sa journée assis. Mais je pense qu'il y a un petit fond aussi où ça reste quand même. Où du coup il faut se tenir droit, quoi. Et après dans la famille de mon père c'était plus comme c'était les moments où on se retrouvait autour des repas, les moments où on se retrouvait comme groupe, quoi, comme la grande famille comme groupe. Et bah c'était beaucoup plus des rapports de génération, et du coup c'était plus que les enfants, il fallait pas qu'on fasse de bruit, parce que c'était pas les bruits de nourriture quand on mange, c'était plus les bruits. Enfin, que quand on est enfant, on parle pas, on fait du bruit, quand on est les parents par exemple, pas les adultes. Donc il fallait pas qu'on parle trop, il fallait pas qu'on se lève n'importe quand, il fallait pas qu'on tourne dans tous les sens, il fallait pas qu'on gêne les autres. Et c'était plus un truc comme ça entre les grandes personnes et les enfants.
En y réfléchissant, en fait, je sais pas toujours dans quelle mesure elles sont explicites ou implicites. Mais il y en a plein d'explicites. C'est se tenir correctement. Alors, ce que ça signifie réellement reste relativement implicite, mais c'est se tenir droit, ne pas faire trop de gestes, rester calme, pas prendre trop de place en tant qu'enfant, rester sage, même assis il faut se tenir droit, ne pas être avachi, tu vois. Donc du coup implicitement par exemple c'est ne pas s'adosser à son siège, mais ça pareil, on me l'a jamais verbalisé. Et après tenir son corps, mettre sa main devant sa bouche quand on bâille ou quand on éternue, ne pas mettre les doigts dans le nez ou dans les oreilles, ne pas se gratter, pas faire trop de bruit avec son corps, des trucs comme ça. Se tenir droit, quoi. Un peu comme se tenir, se contenir. Manger correctement, c'était se tenir bien à table. Du coup, ne pas mettre les coudes sur la table, ne pas lécher son couteau, s'essuyer la bouche avant et après de boire, parce qu'il faut pas tâcher le verre. Après, je peux faire la liste hein, de ces règles explicites, implicites de se tenir correctement quand on mange. C'est sûr qu'il y a eu un contrôle de mon corps. Il y a un contrôle des corps. Et c'est encore le cas quand je me retrouve dans ce milieu. En famille ou quoi. Et bah, je dirais, on peut soit dire que c'est subi ou que c'est acquis. Enfin, tu vois, c'est un peu les deux, quoi. Et contrôle de mon corps par ma mère essentiellement, sur la posture. Et je me fais encore reprendre si je me tiens pas droit à table ou si je respecte pas les règles de bonne tenue à table. Et sur l'habillement aussi, potentiellement. Look at me, I got a kiss about a language. I've got a language. I've got a language.
Et donc, après ces interviews, passons maintenant à l'usage du corps dans la bourgeoisie. Qu'est-ce que c'est, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? On est allé voir chez Luc Boltanski, dans son livre qui s'appelle « Niveau d'instruction et rapport au corps à mesure physique ». Donc, on va vous présenter un peu qui est Luc Boltanski pour comprendre un peu d'où il parle, en fait. Luc Boltanski est né en France dans une famille originaire de Russie avec un père juif et une mère chrétienne. Son père, médecin, doit se cacher durant la guerre dans un réduit aménagé sous le plancher de l'appartement familial. Et sa mère, elle, est née dans une famille bourgeoise, désargentée. Et elle devient écrivaine après la guerre et adopte les idées du Parti communiste. Pendant la guerre d'Algérie, Luc Boltanski est militant anticolonialiste. Il soutient ensuite pendant un ou deux ans l'Union de la Gauche Socialiste, un groupe de militants de gauche qui tente une première expérience d'unité entre chrétiens et marxistes. En 2008, il dit se sentir proche des communistes libertaires. Puis en 2009, le sociologue participe à la société Louise Michel, proche du nouveau parti anticapitaliste, NPA. Pour ce sociologue, la manière d'être de son corps est une traduction de ce qu'on appelle l'ordre culturel, c'est-à-dire du « comment on doit être ». Plus spécifiquement, c'est aussi le degré auquel les individus utilisent leur activité physique pour leurs moyens matériels d'existence ou de la mise en œuvre de leur force physique et de sa vente sur le marché du travail. Plus concrètement, c'est est-ce que j'utilise mon corps pour travailler ou pas, mais pour que ça crée une forme de capital, on va dire. Plus on s'élève dans la hiérarchie sociale et le niveau d'instruction augmente, en parallèle et progressivement, l'importance du travail manuel diminue au profit du travail intellectuel. Le système de règles qui détermine le rapport des individus à leur corps se modifie également. Lorsque leur activité professionnelle est essentiellement une activité intellectuelle n'exigeant ni force ni compétences physiques particulières, les personnes tentent de, premièrement à établir un rapport conscient à leur corps et à s'entraîner systématiquement à la perception de leurs sensations physiques et à l'expression de ces sensations. Deuxièmement, à valoriser la grâce, la beauté ou la forme physique au détriment de la force physique. Écoutons maintenant les interviews sur le sport.
Alors, on n'avait pas d'activité sportive présentée comme telle. Il y a que mon petit frère qui a fait du foot. Mais moi j'habitais à la campagne, on faisait du vélo, on marchait, on jardinait, des activités physiques de campagne comme ça. Le vélo, la promenade, aller aux champignons, à la pêche, et on a fait un peu de cheval et on avait un poney. Donc ça, ouais, c'est un truc tout à fait connoté, je trouve. Et j'ai un cousin qui a fait de l'escrime, par exemple. Mais des activités, tu vois, ouais, non, c'était pas vraiment d'activités sportives en tant que telles. Les activités, c'était plutôt des activités culturelles ou scientifiques.
Alors moi, j'en faisais pas du tout d'activité physique. Une fois, on a essayé de m'inscrire à la danse classique. C'était un carnage. Du coup, j'avais pas voulu. Ma mère m'avait forcé. Ça devait faire bien. Et puis moi, j'ai tenu 2 mois. Je dirais que dans ma famille, là, c'est là qu'intervient le grand monstre genre. Mais il y avait juste mon père et mon frère qui couraient, je me rappelle. Et qui faisaient un peu de ping-pong de temps en temps. Mais c'est tout. On n'est pas une famille sportive. C'est un peu une famille d'intellectuels.
On a fait quand même des sports ou des activités physiques quand on était petit. Moi, par exemple, je pense que c'est un peu marquant quand même. Je me souviens, en tout cas, quand j'étais en CE1 et CE2 ou CP et CE1, un truc comme ça, il y a 2 années où j'ai fait un sport pendant 1 an, c'était une fois du tennis et une fois de l'équitation. Je pense que ça, c'est socialement assez marqué. Et je trouvais ça... le tennis, je trouvais ça hyper chiant. Mais je voyais pas du tout l'intérêt, mais puis c'est resté un peu pareil. Je pense que l'équitation, j'aimais bien le côté où c'était dehors. Les animaux, il y a un côté chouette, mais il y a quand même aussi des ambiances de centre équestre, quoi, qui étaient un peu particulières. Mais j'étais assez petit, donc j'ai pas des souvenirs très très... Enfin, j'avais pas vraiment d'analyse, en tout cas, à ce moment-là. Et après, j'ai fait surtout du VTT avec mon frère, avec des groupes où il y avait surtout... Là, je pense que c'était assez mixte socialement. Dans le club, voilà, et après le VTT, moi je sais pas trop, je pense dans les rapports au matériel, enfin l'équipement, quoi, le truc plus ou moins cher, plus ou moins technique, mais comme on était des ados avec des vélos un peu basiques, et puis on faisait 2 heures de vélo le samedi après, enfin c'était pas hyper marqué, je trouvais. Et ma sœur a fait de la danse, quand même. Et moi je pense qu'il y a, pendant un moment, j'aurais voulu, enfin j'avais envie de faire de la danse, puis il y avait un côté où c'était à la fois, ça me faisait envie, c'était pas complètement possible. Côté de la famille de mon père, en fait, voilà, on parle beaucoup de bouffe et on a peu d'activités physiques en commun. En tout cas, dans les moments partagés, dans la façon dont on se retrouve en groupe, ben, je pense à la génération, en tout cas, de mes oncles et tantes, les retrouvailles, enfin, les moments où on s'est retrouvés, c'était beaucoup autour de repas, genre 2-3 fois par an, on fait un repas qui dure des plombes. Et des fois, après, avec mes cousins-cousines, on n'en pouvait plus, on allait faire un tour dehors tout seul. Mais... Donc c'est ça qui a induit un peu un certain rapport avec nos corps qui sont ensemble, assis les uns à côté des autres et qui ne bougent pas. Mais... Et je dirais que dans la famille de ma mère, bah aussi la famille de ma mère, on ne s'est jamais trop retrouvés en groupe ensemble. En tout cas, ma mère, je pense, elle portait plus un truc où on part en vacances dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui sont un peu du même milieu. Où du coup, les activités, c'est ça, c'est le tennis... le vélo, c'est le côté social, de faire du sport ensemble pendant les vacances. Ou comme c'était au bord de la mer, du bateau, enfin les trucs, voilà, le tennis et le bateau, c'est à la fois le côté social parce que c'est ce qui peut réunir des gens qui font ça ensemble, qui aiment ça, puis en même temps c'est des sports aussi socialement, c'est pas rien, parce que à la fois le tennis par exemple c'est pas hyper cher, enfin je pense que c'est pas beaucoup plus cher, mais par contre je pense que c'est pas n'importe qui fait du tennis quand même. C'est sûr que le bateau c'est déjà encore un niveau au-dessus.
Alors, la pratique d'un sport est une utilisation ludique, intentionnelle et réglée du corps. La fréquence de la pratique du sport augmente quand on passe des classes populaires aux classes supérieures, c'est-à-dire quand l'activité physique diminue pour un usage professionnel. C'est certainement le meilleur indicateur des usages du corps. Les sports qui sont le plus souvent pratiqués dans les classes supérieures, comme le ski, la natation, l'athlétisme, le tennis, ont d'abord pour fonction de maintenir l'individu en forme, c'est-à-dire de lui permettre d'acquérir et de conserver un corps solide, mais peut-être surtout un corps conforme aux canons de beauté en vigueur dans les classes sociales.
Ah. c'est la vie. Jusqu'à l'homme, c'est non, j'ai plus envie de rire. Je vais faire sauter la banque. J'ai plus rien à perdre, comme un putain qu'on s'en manque. Y'a plus rien qui me tient, kamikaze palestinien. J'ai grandi dans la rue m'a nourri au sein. Trafic de stupéfiants, arnaque, fraco, Rosel. Finir ma vie à cette rampe avec un Jack, Rosel, Carl, Marx, Adam, Smith, Coca, Light, Stan, Smith. Tous les jours, 6 heures, tous les jours, métro, taf, gosse, école, béton, passe, coffre, monnaie, compte en place. Cet été, c'était hit, c'était classe. 6 heures, classe, métro, taf, gosse, école, béton, passe, coffre, monnaie, compte en place. Cet été, c'était hit, c'était classe. Tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Yeah, tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Yeah, tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Yeah, tu cours après le temps. Yeah. Cours, marche, speed, crève, 24 images, seconde, Spielberg, vite, 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 vite. Donne-moi la main, je sens que je tombe dans le vide. Sans que j'ai de violence gratuite, rencontre fortuite, ascenseur émotionnel, ta vie c'est de grand vide. Cours, marche, speed, crève, tic-tac, le temps t'achève. L'apocalypse, au loin, stésine, putain, nazi, cadré, nali. Ma jeunesse se flingue doucement, la cocaïne. J'ai ce putain de rôle, je représente comme Smile. Tous les jours, 6 heures, tous les jours, métro, taf, gosse, école, le temps passe. Coffre, monnaie, compte en place. Cet été, c'était hit, c'était classe. 6 heures, classe, métro, taf, gosse, école, le temps passe. Coffre, monnaie, compte en place. Cet été, c'était hit, c'était classe. Tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Yeah, tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Yeah, tu cours après le temps, mais c'est le temps qui court après. Yeah, tu cours après le temps. C'est le temps qui te court après, yeah.
D'écouter Prince Felaga, Lutte des classes. Et donc, maintenant qu'on a parlé du corps, on va parler de la voix. Parce que la voix, ça fait aussi partie de l'apprentissage et du contrôle du corps. La parole distinguée n'a pas d'accent. Alors, ce qu'on entend par là, c'est qu'elle a l'accent parisien, celui de la radio, de la télé, des politiciens, mais c'est considéré comme un accent neutre, si tant est que ça puisse exister. La puissance sonore est de moins en moins forte à mesure qu'on s'élève dans l'échelle sociale et scolaire. Et le chevauchement des paroles et prises de parole dans les interactions verbales en face à face ou en groupe est de moins en moins fréquent et de moins en moins bien supporté quand on s'élève dans l'échelle sociale. En gros, quand on est de classe aisée, on parle moins fort et on n'aime pas se faire couper la parole et on coupe pas la parole, en résumé. Le ton de voix doit être ferme mais naturel, il ne doit pas paraître trop travaillé. C'est là tout l'art de la bourgeoisie de travailler intensément les corps pour qu'ils paraissent, entre guillemets, naturels. Donc un naturel défini par ces mêmes bourgeois. Et de manière genrée et misogyne, le ton de voix dit naturel et légitime est un ton de voix grave et masculin. Ainsi, les femmes de pouvoir, les politiciennes, les chefs d'entreprise, les cadres, etc. doivent faire tout un travail pour baisser leur tonalité de voix afin de paraître sérieuses et pouvoir exercer une autorité.
Oui, honnête pour mon blé. C'est la lutte des classes.
je la verdauve. Un jour je me fais choper par les supplés qu'on est. Je finirai en cabane, je prendrai une balle. Ce sera toujours bien qu'une vie de misère. C'est la lutte des classes. Pour nous y'a plus de place.
Venez d'écouter les Salles Majestés, c'est la lutte des classes. Alors maintenant, on va passer plutôt à la partie des vêtements, des habits, etc. Sont divers signes établis à même le corps ou dans son prolongement immédiat, tels que les vêtements, les accessoires vestimentaires, les coiffures, etc. Pour ce qui nous concerne maintenant, on va parler de ce qu'on appelle l'exis vestimentaire. Comme on a pu voir avant, c'est une continuité de l'exis corporel. Donc, qu'on a vu avant, c'est-à-dire car d'un côté les signes qui viennent d'être nommés restent plus ou moins étroitement liés au corps. Ils participent plus largement, au système des goûts et des choix esthétiques dans la forme la plus matérielle que ce système prend en fait d'organisation et de stylisation différenciée des espaces de vie. La multiplication des modes et leur appropriation de plus en plus complexe contribuent à brouiller les codes de l'apparence. Pourtant, l'apparence corporelle reste un marqueur de classe de manière assurément plus subtile qu'il y a 50 ans, mais pas de manière moins puissante. Dans les interactions, elle est ainsi l'un des multiples signes qui indiquent aux individus leur proximité ou au contraire leur distance dans l'espace social à travers ce qu'on appelle les jugements synthétiques instantanés qu'elle engendre. On va maintenant écouter les enregistrements des camarades amis sur les habits d'enfance. Pourquoi ? Car la construction de la hiérarchie de classe se transmet dès l'enfance par les habits et les goûts qui les accompagnent.
Alors, je viens de la campagne, d'une famille nombreuse, donc du coup on faisait avec ce qui était disponible autour, et j'ai aussi beaucoup porté les vêtements de mes grands frères. On passait beaucoup de temps dehors, du coup c'était beaucoup de trucs solides et pratiques, et il y avait un truc, je pense, autour de la qualité, il fallait que ça tienne. Pas trop de baskets, plutôt des chaussures en cuir, je crois qu'on a eu des kickers... Enfin, tu vois, ou des souliers lacés, quoi. Et question vêtements, c'était entre autres, c'était Tony Boy, parce qu'il y avait un magasin qui faisait ça à 10 km de mon bled, quoi. Les vêtements de mes grands frères ou de mes cousins, c'était des fois des chevignons. Mes parents étaient très critiques par rapport aux marques où la marque se voit, et notamment les marques de sport. Je pense que ça dépend de quel milieu bourgeois on vient, mais moi tu vois c'est quand même moyenne bourgeoisie, du coup faut pas non plus que ça claque. Il y a un côté comme ça, ce serait comme potentiellement trop vulgaire ou trop m'as-tu vu ou trop je sais pas trop quoi, tu vois. Mais c'est sûr des trucs de qualité quoi. La preuve en fait c'est que on se les passait de frère en frère. Donc tu vois, moi j'ai porté des pantalons, enfin j'ai 8 ans de différence avec mon frère aîné, j'ai porté ces pantalons, donc ils ont tenu 10 ou 12 ans quoi, tu vois. On portait aussi des trucs cousus ou tricotés pour nous, par des couturières du village, les pulls par exemple, c'était mes tantes. Du coup, c'est aussi des vêtements qu'on se passait. Du coup, quand j'étais vraiment petit, j'ai porté un manteau long écossais à double bouton qui avait été fait pour mon frère 10 ans plus tôt. Mais voilà, il y a eu des trucs comme ça, des manteaux notamment. Ouais. Voilà, du coup, c'est pas des marques, mais c'est un truc particulier quand même. Propre, classique, simple, pas matu, quoi. Et plutôt des choses qui se démodent pas, donc du coup, qui n'est pas spécialement à la mode. Des chemises plutôt que des t-shirts, des pulls plutôt que des sweats, pas trop de motifs fantasy, de luni, des rayures, des carreaux, pas trop de couleurs flashy. Ce qui est très valorisé aussi, c'est une montre et une ceinture pour les garçons. Et c'est sûr que je plais jamais autant à ma mère que quand je porte une chemise, une ceinture, et que la chemise soit assortie au reste. Et le fin du fin, c'est que la ceinture soit assortie aux chaussures, au niveau de la couleur ou du style. Et après, les tenues vestimentaires, ça dépend aussi de l'occasion et de ce qu'on fait. Nous, on habitait à la campagne, donc on avait aussi quand même vraiment des trucs très pratiques et pas spécialement, enfin, tu vois, un peu ni beau ni moche, quoi. Mais il y a toujours comme des vêtements de cérémonie ou de fête, quoi, tu vois. Où là, la chemise, elle sera encore plus repassée, plutôt unie, du coup, le pantalon, ce sera pas un jean, des trucs comme ça, quoi. Mais on portait pas non plus des blazers ou des costumes, des trucs comme ça, quoi. Je suis en train de réfléchir. Si, on pouvait porter des nœuds papillons, par exemple.
Et moi aussi, je pense que j'avais vraiment pas le droit de me maquiller, par exemple, toute mon enfance jusqu'à... limite la fin du lycée, j'avais pas le droit de me maquiller et j'avais pas du tout le droit qu'on voit mon ventre, que je mette des jupes trop courtes. Et bravo, après on voit ce que ça donne. En plus, comme je vivais dans un petit village où tout le monde me connaissait parce que j'étais la fille du docteur, bien évidemment je suivais pas les règles, mais que la fois où j'allais à la fête foraine avec du gros bleu et du gros rouge à lèvres, je me prenais des tartes en rentrant à la maison, parce qu'en fait ça allait très vite à ce qu'on dise « Oh, la fille du docteur, elle avait tout donné hein. !» Et la fille du docteur, elle avait tout donné, puis ma mère, elle aimait pas du tout que je donne tout. Ça fait que en fait, mes parents, moi, ils serrent à fond la vis sur ça. Oh, le bon accent monsieur qui remonte. L'habillement, mais en vrai, même l'habillement, moi, je ne devais pas avoir des choses trop moulantes, sinon j'allais avoir des mycoses. On m'avait dit... Moi aussi, parce que je crois la vulgarité, ça renvoyait à fond des trucs de prol, et que ma mère, elle voulait pas faire ça. Moi, j'ai eu l'impression d'un contrôle de mon corps dans ma famille, aussi de manière très différente entre mon père et ma mère. Ça, c'est un peu important. Mon père, il en avait vraiment rien à foutre de comment j'étais habillée. Et même quand j'étais ado, par exemple, où j'étais très excentrique avec plein de couleurs, il me prenait en photo. Pendant que ma mère prenait sa tête dans la main, en mode « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle, quoi ?» Moi, c'est l'endroit où je trouve ça rentre en compte aussi la question de genre. Et comme mon père est médecin de campagne, il allait bosser en robe de chambre. Il s'en foutait. Il avait une robe de chambre dégueulasse. Et ma mère, elle n'en pouvait plus. Elle allait lui acheter des pulls en disant « Mais quand même, Bernard, ça va pas du tout. Regarde ton pull avec ses pellicules. Il a toujours des couches de pellicules sur les épaules. Ben, » je pense qu'il fait ce qu'il est, quoi. Puis il fait cravingue pour ma mère. Alors ma mère, elle ne supporte pas. Et du coup, moi, je me retrouvais au milieu là, avec, je pense, ce truc d'injonction de genre de ma mère qui était « il faut passer, il faut qu'on soit clean, on va plus s'en prendre dans la gueule », et que mon père, il en avait rien à faire, quoi. Ce qui fait que moi, j'adorais mon père, parce qu'ils s'en foutaient de ce à quoi je ressemblais, alors que ma mère était vraiment très, 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 très pénible. Quand j'étais petite, je portais vraiment pas de marque. Parce que, mes grands-parents de chaque côté, ils cousaient et tricotaient, et que mes parents, ils venaient quand même d'un univers où il n'y avait pas de thunes, c'était quand même assez inadmissible d'acheter des fringues qui valaient de l'argent. Et puis aussi, mes parents, ils n'avaient pas de thunes tout un moment de leur vie, quoi. Ils étaient en études de médecine, en ayant redoublé, alors du coup, ils n'avaient plus de bourse, du coup, c'était la crise. Ils avaient mon frère et ma sœur, moi, je suis arrivée, ils étaient installés et ils avaient acheté leur maison. Mais quand j'étais petite, on n'avait pas le droit aux marques. Moi, des fois, j'en voulais. J'avais pas le droit. Et ma grand-mère cousait de très, 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 très beaux... Crocodile Lacoste, par exemple, sur des polos qu'elle cousait elle-même, ça se voyait vraiment que c'était pas des polos Lacoste. Mais tout le monde faisait ça dans la famille, c'était normal. Et après, je pense que quand j'ai été plus grande, que j'ai eu 16, 18 ans, je pense que j'ai commencé à pas avoir des marques, mais à avoir des vêtements plus chers. À arrêter d'aller chez Gémeaux, parce que j'allais chez Gémeaux, je me rappelle, où j'avais le droit d'avoir des vêtements du supermarché. Bah, j'allais dans des petits magasins de centre-ville, c'est là que ça a changé. Je suis passée du Gémeaux, du gros magasin de zone industrielle, je pense mon enfance. Et je me rappelle d'aller au lycée et d'aller encore à Gémeaux et que ce soit un peu la fuite. Parce qu'en plus, comme j'étais très grande et très très maigre, et que c'était la mode, il y a eu la mode des pattes d'Ef là, et ils étaient censés être moulants des cuisses et un peu larges en bas, et il fallait que je recousse tout. Heureusement, du coup, je savais coudre, du coup, je pouvais quand même m'acheter des trucs qui touchaient un peu la chaussure, mais qu'il fallait que je retire 5 cm de chaque côté pour qu'il me serre un peu les fesses, sinon c'était trop moche. Je me rappelle de mon premier pantalon à 50 €, et ça, c'était un truc de ouf parce que je crois, j'avais jamais eu de fringue qui coûtait un bras comme ça, et je suis sortie du magasin en me disant, oh mon dieu, ce jean, et je pense que j'ai gardé des années. Ma mère, elle était malade, elle était là, oh voilà, c'est ton nouveau jean, tu le garderas toute ta vie. Mais ça, c'était les petits magasins de centre-ville, quoi. Ça fait vraiment changer de totalement de trucs. Ouais, de vestimentation.
Bah, quand j'étais petit enfant, on n'avait pas de marque. Je pense que ça, c'était pas du tout un enjeu. Enfin, jusqu'à ce que je sois au collège, peut-être, c'était pas vraiment moi qui choisissais les vêtements, c'était plus ma mère. Et c'était notamment des vêtements que les parents s'échangeaient avec d'autres parents, avec des amis ou des gens de la famille, là, d'enfants qui avaient des âges un peu plus âgés ou un peu plus jeunes que nous, et les vêtements circulaient. Et donc, c'était pas un gros enjeu. Je pense aussi pour mes parents, quoi. C'était pas il n'y avait pas beaucoup d'investissements. Enfin, c'était pas des vêtements chers. Quand il y en avait des vêtements neufs, puis c'était pas très important d'avoir des vêtements neufs tant qu'on grandissait, qu'on n'avait pas le temps de les garder longtemps. Après, je me souviens que par exemple, quand même, quand le mariage de ma tante, du coup, avec mon frère, ma soeur et moi, on devait avoir un truc genre 3, 5 et 7 ans. Enfin, on était petits, quoi, quand même. Et sur la photo du mariage, ça ressemble vachement. Pour les personnes qui lisent, je sais même pas comment on dit, Madame Figaro, je crois, enfin le magazine qui va avec le Figaro, là. Dedans, il y avait une BD, que ça, je sais pas si elle est encore, mais ça s'appelait Les Triplés, avec trois enfants qui sont vraiment des enfants modèles, quoi. Enfin, qui sont blonds, bien coiffés, avec des genre des Bermudas à carreaux, ou des petites robes avec le gilet assorti. Ben, on était comme ça, sur les photos, on est vraiment comme ça. Et après, quand je pense autour de l'arrivée au collège, quoi, j'ai plus voulu choisir moi-même mes vêtements. Enfin, j'avais pas non plus, j'étais pas tout le temps habillé en short à carreaux, mais en Bermuda, là, c'était un peu ça la tendance. Je pense que c'était un enjeu pour moi à ce moment-là d'avoir. Je me sens que j'ai eu un sweat fila quand j'étais en 5e, que j'ai gardé un moment, que je mettais tout le temps. C'est l'âge où c'est devenu un enjeu pour moi d'avoir un truc de marque, mais c'était un truc à cause de la mode. Enfin, de la mode, de comment on s'habillait avec les gens autour de moi, dans ma classe, quoi, mes amis. Donc c'était un enjeu, les marques, mais c'était un enjeu aussi parce que je pense que, bon, en fait c'était jamais mon père, hein, c'était ma mère qui s'occupait de ça avec nous, que quand on allait faire des courses pour les vêtements, et ben, on aurait pu mettre beaucoup plus de thunes dans les vêtements, et c'était quand même un enjeu pour elle de que les vêtements soient à un prix, ce qu'elle considérait normal comme des vêtements, enfin pas trop cher, et que du coup les marques, ben, des fois ça servait à rien, ou des fois c'était moche, ou des fois c'était trop cher pour ce que c'était, quoi. Même si ça aurait été possible de l'acheter. Et du coup c'était un enjeu parce qu'il fallait tout le temps négocier. Quand j'étais ado, j'avais des remarques, puis après, c'était un enjeu de rien se dire pour pouvoir se parler d'autre chose et de pas se faire des retours trop chiants.
Et alors, pour continuer un peu sur cette thématique, on est allé chercher dans un livre qui est de Béatrix Lolita, qui s'appelle « Ni vu, ni connu ». Et c'est, ça s'appelle, enfin, la continuité du titre, c'est « Approche ethnographique de la culture bourgeoise ». Et on va vous lire deux citations qui continuent, en fait, qui continuent sur la thématique des vêtements.
Donc elle parle des habits et elle dit « On ne change pas au gré de la mode, on sait où se les procurer. On peut ainsi les faire circuler entre les personnes, voire entre les générations. » L'ordre règne dans l'intimité de soi à son corps. Foulards et accessoires divers agrémentent et personnalisent ses tenues. La vesture est conforme à ce que l'on doit présenter de soi. Elle crée ainsi la distinction entendu dans le sens de séparation, séparer le jean bourgeois des autres jeans.
Plus exactement, la tenue vestimentaire est repérée intuitivement comme telle par les pairs. En effet, la différence recherchée ne fonctionne peut-être pas tant par rapport aux autres, elle permet avant tout à un bourgeois de reconnaître et se faire reconnaître par les siens. Autant de marques subtiles mais non futiles à une époque où les costumes ne signifient plus de manière officielle l'appartenance sociale. Ainsi, dans ces banlieues éloignées de leur berceau parisien, des jeunes femmes se repèrent à la sortie des classes ou sur le marché et reconstituent rapidement leur micro-milieu. Visites d'exposition, échanges de services autour des enfants viendront cimenter ces premiers contacts vécus, comme des rencontres de hasard, laissant alors penser que l'on fréquente tous les milieux. Et alors, on voulait rajouter quelque chose sur autre chose, sur le fait que les classes dominantes copient les classes populaires. Ce phénomène s'appelle le trickle down, sans pour autant justifier du même vécu ou des mêmes identités souvent plurielles. Ainsi, par exemple, le streetwear incarne particulièrement bien ce nouveau mécanisme de création et de production. Le débat n'a cependant rien de nouveau. La récupération de la culture street par les marques de luxe n'est pas neuve. À la fin des années 70, le couple de stylistes Marité et François Gerbeau produit en 81 un baggy et en 85 affiche l'African Westline, laissant déborder le caleçon. La marque élève alors le streetwear dans les rangs du prêt-à-porter de luxe et fait descendre dans un même souffle la mode des podiums dans la rue.
Et voilà, on en a fini pour cette première partie sur le corps, parce que on va continuer dans la prochaine émission sur l'alimentation et la corpulence dans la bourgeoisie.
Alors on a été très contente de refaire ce direct et on prend notre temps dans la préparation et tout ça. Et on va terminer par une chanson de la Reine du Rail qui s'appelle « J'en ai marre ». Et alors c'est Rimiti.
ألا يملا تلومنيش قدام الناس وخليني كاظم قبض فمك ما يجي حد يلومك فيرم لابوج اوف ليزيو ألا يما لا يملا تلومنيش قدام الناس مني تبغي تلومني طرفني وحدي عندي هضرة معاك
La revanche des hérissons sur Jet FM 91.2.